en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion. Bonjour, bonsoir. Pour beaucoup, il est l'inventeur d'une perversion sexuelle, le masochisme. C'est pourtant inexact, car si le mot masochisme a bel et bien été forgé à partir de son nom, celui de Léopold von Sacher-Masoch, il ne l'a pas choisi et ne l'a même pas voulu. Il y a pourtant grandement contribué, de par sa vie personnelle et de par la Vénus à la fourrure. Son livre le plus célèbre, adapté depuis au théâtre et au cinéma et qui a contribué à forger sa légende. Pourtant, le personnage de Léopold est beaucoup plus complexe, beaucoup plus attachant aussi, sans mauvais jeu de mots, que ce que l'on pourrait penser. C'est en tout cas un homme sensible et amoureux, un bon père de famille, un bourreau de travail, un écrivain à l'œuvre protéiforme que l'on découvre en feuilletant cet album de bande dessinée qui va bien au-delà du sadomasochisme. L'homme à la fourrure de Catherine Sauva et Anne Simon est publié chez Dargaud et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être là. Catherine Sauva, j'ai lu que vous êtes franco-autrichienne. C'est pour cela que vous êtes intéressée à Léopold von Sacher-Masoch.
Oui, absolument. C'est à force de travailler sur des auteurs autrichiens, en tous les cas de cette période, que je suis tombée sur lui. Enfin, et puis sur l'idée de me dire que effectivement c'était un écrivain qui avait un peu disparu. Et quand je me suis rendu compte qu'on lui avait accolé cette étiquette de masochiste avant qu'il ne soit mort. Voilà, ça a été le déclic.
Oui, parce que vous avez beaucoup étudié effectivement des écrivains autrichiens célèbres, Schnitzler, Zweig, Rilke, Alma Mahler aussi. Vous avez écrit des biographies classiques, des biographies écrites. Qu'est-ce qui vous intéresse, Catherine Sauva, dans l'exercice de la biographie?
Je pense que j'aime l'histoire et la grande et la petite, et je pense que de la lire au fil de gens qui ont vécu des destins assez exemplaires, en tous les cas assez passionnants pour la plupart, c'est un privilège.
Et notamment des écrivains, parce que c'est quand même cette veine-là que vous avez en particulier choisi de tracer.
Oui, enfin j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des musiciens, oui, parce que je me sens plus à l'aise là, c'est quelque chose qui me correspond davantage. Il y a aussi une réflexion sur le devenir d'une œuvre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un passe entre le fait du désir et devient véritablement écrivain. Et bon, en plus, ça concerne une histoire qui est riche en événements. C'est vrai que pour la plupart, j'ai choisi beaucoup des Viennois ou des gens qui appartenaient à l'Empire autrichien, et ça a été une histoire bien complexe.
Mais alors, pourquoi cette fois-ci en faire non pas une biographie classique, une biographie écrite, mais une biographie en bande dessinée?
Eh bien, parce que je pense que là, une biographie au sens classique, c'était compliqué, certainement, d'essayer d'imaginer quelque chose autour de la vie de Sacher-Masoch. Il fallait des images, c'était la première évidence qui s'est imposée à moi, parce que vraiment son œuvre est tombée dans l'oubli, et c'est compliqué d'aller, même s'il y a pas mal de parutions ces dernières années de ses romans ou de ses nouvelles. Ça parle d'un monde qui est quand même englouti, et c'est difficile. Donc l'image pour représenter cette personnalité au sein de son époque, dans ses fantaisies et dans son aventure humaine, c'était vraiment une belle gageure.
Et en quoi Anne Simon était-elle la dessinatrice idoine?
Écoutez, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que j'adore son dessin.
C'est une bonne raison, mais ça ne suffit peut-être pas.
Non, ça ne suffit pas. Écoutez, elle s'est illustrée, c'est le cas de le dire, avec beaucoup de d'albums déjà, et dont moi je connaissais son Freud, que je trouvais vraiment formidable, en tous les cas.
Écrit avec Corinne Maillard, qu'on a reçu d'ailleurs ici dans cette émission.
Voilà, c'est ça. Et je trouvais qu'elle avait à la fois un dessin comme ça, précis, et en même temps avec une fantaisie capable d'entrer dans le monde des fantasmes, dans le monde de l'imaginaire, qui était alors là rêvé pour cette aventure qu'on pouvait imaginer à deux.
Voilà. Et c'est vrai que c'était finalement assez logique que vous vous rencontriez toutes les deux, Anne Simon, parce que donc il y a eu Freud, il y a eu Marx, il y a eu Einstein aussi, donc vous avez à la fois, comme Catherine Sauva, cette fibre biographique et puis cette fibre germanique.
Oui, alors ça, la fibre germanique, je crois que c'est un hasard.
C'était un hasard total. Freud, Marx, Einstein. Oui,
et les moustaches aussi.
Aujourd'hui, Sacher-Masoch, ça fait beaucoup quand même.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes en train de construire, toute une histoire de l'Autriche et de l'Allemagne à travers leurs grands personnages.
Mais oui, et après c'est vrai que graphiquement, par exemple là pour les recherches de l'homme à la fourrure, parce que c'est ce que j'aime dans le d'illustrer en fait une biographie, c'est tout ce qu'il y a avant, c'est la documentation en fait, essayer de plonger vraiment dans l'histoire de ces personnes qu'on croit connaître. Sacha Mazoch, voilà, on connaît tous Majocisme, mais comme on vient d'expliquer, en fait, on le connaît lui pas si bien que ça. Et par exemple, aller à Vienne avec tous les peintres illustres qu'il y a là-bas, les faïences, enfin tout l'architecture, c'est vrai que c'est vraiment une époque qui me plaît beaucoup.
Donc vous êtes allé sur place, c'était vraiment important de vous déplacer, parce qu'aujourd'hui beaucoup de dessinateurs travaillent avec internet, avec la photographie, avec des documents. Pourquoi est-ce que c'était indispensable de se rendre en
Alors je suis pas allé partout là, c'est vrai que je suis pas allé à Grasse par exemple où se passe le début du livre.
Oui.
Mais oui, j'avais vraiment envie, bon déjà Vienne par exemple, c'est une ville que j'aime beaucoup, donc voilà, mais j'avais vraiment envie de me plonger dedans pour... Je trouve que c'est comme ça qu'on trouve des idées de mise en page et des motifs. C'est vraiment en allant se balader un peu au hasard. Et on peut trouver un petit détail qui va faire que ça va prendre de l'importance après dans le dessin.
Mais alors comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous êtes vous avez beaucoup discuté, j'imagine, ensemble toutes les deux. Vous aviez déjà des indications très précises données par Catherine Sauva, et ensuite sur le terrain vous avez confronté ce qu'elle vous a raconté à cette réalité géographique, architecturale et biographique.
Mais en fait Catherine m'a laissé quand même. Enfin tu me dis si tu me contredis, mais m'a laissé une liberté quand même assez grande au niveau des mises en scène. Donc c'est vrai que c'était en tout cas ton scénario, et c'est ça que j'aime bien aussi, il était pas contraignant en fait. Je peux vraiment faire me donner beaucoup de liberté en fait, donc je vais avant, par contre je suis allée en Autriche avant de commencer le livre.
Mais vous aviez déjà
lu. Il fallait que je digère un peu, mais j'avais lu la Vénus
à la fourrure.
Oui,
ça
j'avais lu,
bon,
et tout, mais pour le graphisme en tout cas, pour les...
Alors, La Vénus à la fourrure, c'est le livre qui a fait connaître Léopold von Sacher-Masoch. C'est par une lecture de ce texte, d'ailleurs, que vous ouvrez toutes les deux l'album. Nous sommes en 1872, nous sommes dans un salon, ou plutôt dans la bibliothèque, hein, de ce Sacher-Masoch à Grasse, dans le sud-est de l'Autriche. Et vous le mettez en scène, hein, Anne Simon, en train d'en lire des extraits à un public de bourgeois ou d'aristocrates autrichiens qui ont tous un peu des airs de bien-pensants. Hein. Et dans leur regard, et c'est vrai que c'est assez surprenant, il faut vraiment prendre le temps de regarder les dessins attentivement, on sent finalement beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'amusement que de gêne finalement.
D'amusement dans les personnages, vous pensez?
Dans le public,
Dans le public, oui.
Alors, il y en a un qui crie au scandale, quand même,
oui.
mais c'est au détour d'une case. Il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des gens qui sont réunis
mais,
là.
Mais je pense que c'est vraiment ce qu'a fait le succès et le malheur de Sacha Mazoch, encore une fois, c'est que les gens sont intrigués par ce qu'il raconte. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. On est tout ce qui est sur ce thème-là, en fait. Fait
une forme de curiosité.
Oui, et les amusements
comme si
un peu gênés.
On s'en canaille un petit peu, quoi.
Oui, voilà.
C'est un petit peu
tout en étant un peu gêné, mais amusé, quoi.
Voilà, un peu gêné, mais amusé. C'est un roman à la fois érotique et autobiographique, Catherine Sauva.
Oui, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est à cette époque-là, c'est un jeune écrivain, encore jeune, il a une trentaine d'années, et il est connu, il a déjà eu des pièces qui ont été jouées, il a déjà publié un certain nombre de choses, c'est un professeur d'université qui a eu une chaire pendant un certain temps, donc c'est juste pour vous situer le
Non mais c'est important, parce que voilà, c'est un personnage installé,
voilà,
c'est pas
ça.
Quelqu'un qui...
Voilà, c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup
sort du zéro.
Voilà, c'est ça. Donc, pardon, j'ai oublié de... Vous me parliez...
Oui, le roman en lui-même, donc la dimension érotique mêlée à la dimension autobiographique.
Alors oui, la dimension érotique, elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... On connaît des romans érotiques où il y a d'abord des choses qui sont nommées de manière précise. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tout est extrêmement sage, tout est extrêmement contenu. Il y a une chose très importante qui est le départ du masochisme, qui est le contrat, un contrat qui est passé entre un homme et une femme, et après il y a des scènes de fantasmes qui sont plus ou moins réalisées et qui tournent tout autour de la fourrure et du fouet. Mais outre ça, on trouve pas de termes vulgaires, on trouve pas de situations où tout d'un coup Voilà, enfin de choses qui appartiendraient vraiment au roman.
Alors justement, vous qui êtes germanophone, comment est-ce que vous pourriez nous décrire le style littéraire de Sofia Mazur?
Oh, c'est un style qui vise à l'efficacité, qui est je crois que quand on lit La Vénus à la fourrure aujourd'hui, on peut être un petit peu déçu, pour être extrêmement franc, parce que c'est un style d'une autre époque, c'est un peu vieillot même, c'est aussi le défaut de la qualité, c'est-à-dire que comme rien n'est nommé, on attend toujours, on se dit mais pourquoi est-ce que ce livre a tellement fait parler de lui, pourquoi, où est la dimension érotique?
Oui. Avec le regard d'aujourd'hui, on a du mal à comprendre.
Oui. Voilà, on la trouve pas immédiatement, mais il y a quelque chose de très cultivé aussi, parce que c'est quelqu'un qui fait des références à l'art, à la philosophie. Et donc, on est un peu décontenancé, en vérité. Donc.
Alors, il y a un terme qu'on retrouve dans le livre, je parle sous votre contrôle, Catherine Sauvage, c'est le terme de suprasensuel, c'est l'adjectif qu'il utilise pour décrire le personnage de Séverin, le personnage masculin principal du livre. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce terme suprasensuel?
Oui, c'est vrai que ça revient souvent sous sa plume, ça remonte à une longue tradition qu'on peut même aller chercher chez Goethe, le grand poète allemand, parce que vraiment, je répète, Sacha Mazoche, c'est quelqu'un de lettré, de cultivé, qui a beaucoup lu, qui a, en plus, ce qu'il faut aussi préciser, alors on est toujours obligé de revenir un peu en arrière, mais c'est que La Vénus à la fourrure appartient à un cycle romanesque, qu'il avait pas moins l'idée que de créer une espèce de théodicée, enfin d'imaginer un très très long cycle romanesque dans lequel il étudierait un certain nombre de grands thèmes appartenant à l'époque, mais qui seraient tout aussi valables aujourd'hui, dont l'amour bien sûr, mais aussi la guerre, l'argent, l'État, et qu'est-ce que j'ai oublié, la propriété, et que donc chaque grand thème serait examiné ou en tous les cas raconté au travers de grandes nouvelles ou de romans. Bon, sur ces, je crois qu'il avait un projet de 6 ou 7 pour ça devait s'appeler le legs de Caïn, et il n'en a réalisé que 2. Donc il y a toujours cette idée que il y a quelque chose à démontrer dans ces ouvrages, voilà. Et dans la Vénus à la fourrure, c'est l'histoire de l'amour impossible entre l'homme et la femme, en fait.
Voilà, donc l'histoire autour d'un contrat, hein, donc que les deux amants vont signer, Séverin et la belle Vanda, contrat selon lequel Vanda doit toujours être vêtue de fourrure, hein, et qu'elle doit fouetter Séverin. Donc pour résumer le contrat, c'est la souffrance comme moyen, voire même comme condition du plaisir.
Ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire la souffrance recherchée et le fantasme absolu. Et elle doit, si possible, intervenir par le biais de la femme choisie avec laquelle est passé le contrat et qui effectivement sera magnifiée par la fourrure. Là, on peut préciser que Sacha Mazoche était d'origine et appartenait à l'Empire autrichien, mais qu'il était d'origine, enfin, dans l'enclave slave de l'Empire, c'est-à-dire qu'il est né en Galicie, ce qui correspond maintenant, qui est devenue la Pologne, qui est maintenant l'Ukraine, tout ça était très très slave. Et donc l'idée de la fourrure, c'était des tenues qu'on voyait communément, on peut imaginer à cette époque-là, dans cette partie, en tous les cas, du pays.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche.
Rose, fais-moi mal. John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec. Et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, John, John, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, John, John, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bim.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache.
Cette émission est une rediffusion. Fais-moi mal, Johnny Magali Noël, en 1956, chanson écrite par Boris Vian, dont on entend d'ailleurs la voix, et reprise depuis par plusieurs chanteurs et chanteuses, dont Caroline Loeb, dont Alain Pilot nous parlera à la fin de l'émission. VMDN avec Catherine Sauva et Anne Simon, qui publie donc L'Homme à la fourrure aux éditions d'Argo, et dès les premières pages de l'album, Anne Simon, on est tout de suite saisi par le charme, je crois que c'est vraiment le mot de votre dessin. Il entrecroise d'ailleurs très vite hein, la réalité, donc la lecture du salon que vous dessinez en noir et blanc, et la fiction, donc le récit que lit l'écrivain, traité cette fois-ci à l'encre rouge. D'ailleurs, dans l'ensemble de l'album, tous les ingrédients de l'érotisme, du masochisme, pour faire simple, sont traités comme ça à partir de ce rouge très particulier. Comment est-ce que vous avez déjà choisi la teinte de ce rouge, et pourquoi le rouge lui-même?
Oui, alors c'est sûr qu'alors au départ il fallait trouver une astuce graphique pour bien différencier le moment où on parlait de Léopold Sacher-Masoch dans sa vie quotidienne et quand on mettait des extraits en fait de la Vénus. Donc depuis le début en fait j'avais décidé de changer la couleur du trait pour bien différencier ça. Et après le rouge,
c'est pas n'importe quel rouge. Hein.
C'est un rouge. Sans et en fait c'est vrai que le rouge il se met c'est la couleur la plus appropriée quand même non pas parce que c'est la souffrance le sang je pense que c'est une couleur pourpre c'est assez sensuel en fait le rouge.
Alors déjà le choix du noir et blanc avec des hachures, des rayures, hein, souvent c'est vraiment votre style graphique. À vous, comment est-ce que vous l'avez acquis? Parce que ce style-là, on le trouvait déjà dans Freud, dans Marx par exemple qu'on a évoqué tout à l'heure. Pourquoi vous avez décidé de creuser ce sillon-là?
Ben, je pense que donc je travaille à la plume et à l'encre de Chine vraiment à l'ancienne quoi. Sur du papier un peu à grain quoi.
Oui.
Et c'est déjà j'aime bien, j'adore le bruit de la plume, les sensations qu'on a, il peut y avoir aussi pas mal d'accidents, on va dire, parce que l'encre on peut faire des taches un peu partout. Et c'est, mais après quand j'ai fait les beaux-arts à Angoulême et quand j'étais étudiante, bon voilà, j'ai vraiment tout testé, de la photo au photomontage, au collage, à la peinture. Et quand j'ai découvert la plume, c'était une espèce de révélation. Je me suis dit que j'avais trouvé mon outil parfait.
Notamment à cause donc de la sensualité qui se dégage du dessin, quoi. Dessiner, ouais, c'est un acte sensuel.
Ben oui, faut bien le sentir. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Et la plume s'y prête vraiment bien. Après, voilà, pour une personne, ce sera le rotring ou le crayon. Mais
oui, alors je sais pas si c'est la plume, si c'est autre chose. Mais votre dessin me fait penser à un autre dessinateur beaucoup plus ancien que vous, qui est me semble vraiment aux antipodes de Sacher-Masoch. C'est Péné. C'est les amoureux de Péné. Je sais pas si vous.
Ah oui. Ah bon?
Ah oui, il y a vraiment ce côté, peut-être effectivement, peut-être un peu suranné, mais à la fois complètement vraiment, vraiment charmant. Vous sentez cette filiation-là ou
alors,
pas du tout?
Peut-être un petit peu, mais alors c'est vrai que par contre j'aime beaucoup les gravures anciennes. Alors je me compare pas du tout, mais Gustave Doré, tout ça, je me souviens étant gamine vraiment beaucoup regarder. Et c'est vrai que l'avantage avec la plume, c'est qu'on peut faire plein de trames qui au bout d'un moment font des noirs assez profonds. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on m'a souvent. Alors je sais pas si j'ai un dessin qui fait ancien, parce que vous parliez justement de filiation ancienne.
Oui, mais très élégant aussi en même temps, parce que c'est.
Ça m'est déjà arrivé qu'en dédicace, on vient de me voir, on me dit on pensait que vous étiez une vieille dame.
Voilà, donc c'est pas le cas.
Enfin, je suis pas non plus hyper jeune, mais.
Non, mais voilà, c'est pas le cas, on peut en témoigner. Donc dessin très élégant, je le disais, qui a l'air très simple. Alors. C'est pas du tout, il faut quand même être très clair aussi, c'est pas du tout un album pornographique, c'est pas du tout un album sadomaso. Les scènes SM sont d'ailleurs peu nombreuses, elles sont même très soft, hein. Vous disiez tout à l'heure, Catherine Sauva, que le lecteur d'aujourd'hui serait peut-être un petit peu déçu en lisant La Vénus à la Fureur, mais le lecteur d'aujourd'hui, un peu lubrique, serait peut-être un peu déçu en se promenant dans les pages de votre album. Vous fixez des limites précises justement à ce niveau-là, Anne Simon, dans le dessin?
Oui, mais en fait, justement, pour les scènes où, par exemple, elle domine, où Wanda domine Léopold, justement, c'était l'écueil qu'on aurait pu avoir rapidement, c'est de faire quelque chose de vulgaire ou de, enfin, justement, on fait un livre sur le masochisme, donc moi, j'avais pas envie que ça soit attendu et qu'on l'achète justement parce qu'on a envie de se rincer l'œil, parce que le but du jeu, c'était pas ça. Alors, en le dessinant, vraiment, je me disais, il y en a qui vont être vraiment très très déçus, effectivement. Désolée. Mais c'est vrai que c'était vraiment une sorte de challenge. Je sais pas si le mot est très adéquat, mais de vraiment éviter la vulgarité, quoi.
La planche qui se trouve page 35 l'album, qui est effectivement une scène dans laquelle donc Wanda domine Léopold, hein, si je puis me permettre de les appeler par leur prénom, mais ils sont un peu familiers maintenant, hein, depuis qu'on a lu l'album. Comment est-ce que vous avez composé justement cette planche-ci, Anne Simon?
Comment je l'ai composé?
Ben, il y a une dimension extrêmement graphique, quoi. Vous avez joué vraiment avec les formes presque géométriques, j'ai envie de dire.
Oui, en fait, je me souviens, lors du découpage, en fait, parce que, bon, forcément, je vais pas directement avec ma plume et mon encre, je fais des crayonnés assez rapides quand même, parce que j'aime pas que les crayonnés soient trop poussés, parce que après, je trouve qu'on est un peu trop raide au niveau du dessin. Et je me souviens que cette planche, je l'avais faite au départ en plusieurs cases où on la voyait vraiment en train de enrouler la corde autour du corps, vraiment voir toute la scène de la domination en train de se faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ça aurait plus de force de faire une grande image pleine page sur un fond blanc. Ça avait plus de force comme ça. En fait, justement, parce qu'encore une fois, je voulais pas trop en raconter. Chacun se fera sa propre image.
Donc laisser une place au fond. Fantasme éventuel aussi du lecteur.
Par contre, c'est vrai que là, je l'ai rendue Wanda un peu plus moderne parce que bon, elle a une sorte de body en fourrure. Je me permets ces petites libertés, mais voilà, c'est comme ça que c'est venu. Je voulais aller à l'essentiel en fait, et c'est vraiment agréable de faire des grandes images comme des tableaux comme ça, vraiment.
Alors Wanda, c'est donc le prénom du personnage de la Vénus à la fourrure, et la vraie Wanda, hein, c'est sans doute le personnage, je trouve, le plus intéressant de l'album avec Léopold, on va en parler. La vraie Wanda, elle s'appelle en réalité Aurora Rumelin, et elle va devenir Wanda dans une circonstance que vous racontez, justement suite à la lecture, hein, de la Vénus à la fourrure dans ce salon bourgeois, Catherine Sauva. Racontez-nous justement comment Wanda est entrée dans la vie de Léopold.
Eh ben, comme c'est une dominatrice, ou c'est quelqu'un qui a décidé, en tous les cas, de dominer cet homme qui lui plaisait, elle entre avec un certain fracas, puisqu'elle va sonner. Alors, elle lui fait passer un petit mot pour lui demander, pour lui laisser planer le mystère, et elle se rend ensuite directement chez lui. Et, en sonnant à sa porte, il voit devant lui une femme qui porte un masque, donc qui ne peut pas voir son visage, un loup. Exactement. Et, elle l'attire. Avec le mystère.
Ouais, elle sait ce qu'elle veut quand même, puisqu'elle lui écrit dans le petit mot, vous ne me connaissez pas encore, mais je suis votre Wanda, laissez-moi vous le prouver. C'est vous qui avez écrit ce texte-là, ou bien c'est une réalité historique?
Alors, ce petit passage-là, c'est moi, mais en réalité, ça correspond à la situation qui est que donc Zachar Masoch avait publié l'homme à la Vénus à la fourrure. On va se tromper. Et que Wanda avait entendu parler de lui et avait décidé de le conquérir à sa manière, et elle l'a rencontré, elle a fait planer le mystère, elle s'est présentée vraiment devant lui, abritée derrière son loup, et très rapidement elle lui a proposé ce qui était pour lui le déclencheur absolu de son imaginaire et de ses fantasmes, c'est-à-dire un contrat dans lequel elle s'engageait, c'est ce qu'on a dit donc tout à l'heure, à le dominer, à porter une fourrure et à entrer dans cette relation masochiste.
Et elle va donc endosser le rôle de Wanda, donc le rôle de la Vénus à la fourrure.
Docteur ! Oh c'est pour la Vénus à la fourrure, ils sont tous partis il y a une demi-heure. Nous allons programmer d'autres auditions, s'il vous
plaît. Non, mais je suis là, ça m'évitera de revenir demain. J'ai même un costume. Laissez-moi juste vous montrer comment elle me va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez.
Oui.
Merci.
Non, non. Quand vous voulez. Hein.
Vous trouvez pas que c'est sexiste? Et le tout-puissant le frappa et le livra aux mains d'une femme
Je ne fais que citer le roman de Sacha Mazoch.
Et ça, c'est pas du Titien, ça, mon coco. C'est du porno sado-maso.
Ben pour moi, c'est une pièce sur deux personnes qui sont unies à jamais. Leurs cœurs sont menottés l'un à l'autre.
Menottés dans la perversion.
Non, menottés dans la passion.
Sa passion à lui.
C'est chimique, c'est la rencontre de deux personnes qui met le feu aux poudres.
Mais tout ça, c'est lutte des sexes et lutte des classes. Vanda est quelqu'un d'adorable, d'innocent, qui tombe par hasard sur un gros pervers.
Non, mais vous comprenez pas, vous comprenez rien. Comment vous pouvez jouer aussi bien Vanda et être conne à son sujet, à ce point, au sujet du reste? Putain, comédienne à la con, connasse.
Voilà, pas content le metteur en scène joué par Mathieu Amalric dans La Vénus à la fourrure, hein, le film de Roman Polanski en 2013. C'est Emmanuelle Seigné, hein, qui est la comédienne qui joue le rôle de Vanda. Dans le film, Catherine Sauva, quand Amalric dit, on l'a entendu là, hein, qu'elle ne comprend rien au personnage, lorsqu'elle pense que Vanda est quelqu'un d'adorable, d'innocent, qui tombe par hasard sur un gros pervers, il a raison.
Oui, il a raison, parce que c'était effectivement pas ça. Si ça avait
c'est
été...
tout sauf une innocente, Vanda.
Absolument, exactement, parce que si elle avait été innocente, elle n'aurait jamais plu à Sacha Mazoch. Il avait envie d'une femme forte, d'une femme qui prenne le dessus et qui le dirige d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, pas dans son œuvre. Ça, c'était la grande exception. C'est-à-dire que la domination, la soumission, oui, mais pas, ne pas toucher à ses heures de travail, ni à son honneur aussi. Ça faisait partie du contrat. Mais en revanche, tout ce qui concerne le huis clos, d'ailleurs c'est dit d'ailleurs dans l'extrait du film, c'est-à-dire il y a une espèce comme ça d'espace clos entre deux individus qui s'examinent, qui jouent en fait l'un avec l'autre. Il y a du jeu toujours.
Hein. Alors, il y a du jeu, mais est-ce que c'est une vraie histoire d'amour entre ces deux personnages? C'est pas seulement une histoire de sexe.
Ah oui, il y a eu forcément de l'amour, forcément de la passion, forcément du désir. Ça a été un couple, hein, un couple qui s'est marié, marié, c'est aussi important parce qu'il y a toujours cette histoire de contrat. Ça aussi, c'est comme une espèce de mise en abîme, en fait, du premier contrat passé entre eux. Une vie de couple, une vie de parents, et puis après, une vie de fantaisie, alors sous contrôle, c'est-à-dire, il fallait, pour pimenter les choses, il fallait trouver aussi une tierce personne, un homme que Sacha Mazoch aurait approuvé et qui aurait pu rencontrer sa Vanda, mais de manière effectivement complètement contrôlée, etc.
Et qui est dans La Vénus à la fourrure, voilà, aussi, hein, sous le nom d'un grec qui s'appelle Papadopoulos, hein, c'est ça. Et donc ils vont trouver une sorte de Papadopoulos dans la vraie vie, hein, également. C'est... Sauf qu'un jour, eh bien, Vanda va tromper son mari sans le prévenir. Et c'est là que tout commence à se détériorer.
Voilà, là le contrat est rompu. À partir du moment donné où il n'est pas prévenu, ça ne marche plus. C'était, mais alors on sait qu'ils ont vraiment fonctionné comme ça, et ils procédaient même par petites annonces, c'est-à-dire qu'ils en passaient quelques-unes, ils répondaient à d'autres. Parfois c'était elle qui était envoyée donc par Sacha Mazoch pour rencontrer une personne, etc. Mais là, à ce stade-là, elle commet l'irréparable, c'est-à-dire que elle ne joue plus dans le format imposé.
Oui, et elle a l'air très surprise à ce moment-là, hein, quand elle est découverte avec un amant non prévu, si j'ose dire, Anne Simon. Hein. C'est vraiment le visage de la stupéfaction. Quoi. Mais pourquoi que tu viens me chercher des poux? On a toujours fonctionné comme ça, quoi.
Mais c'était justement un petit peu ce qui était compliqué par rapport à Vanda, comme vous disiez tout à l'heure, que c'était pas une oie blanche, hein, non plus. Mais je voulais pas non plus, enfin, on voulait pas qu'elle soit considérée comme la grande méchante du livre. Et justement, cette scène où elle se fait surprendre au lit avec son amant et c'est vraiment si elle mon mari, quoi, lui débarque. Et en fait, elle dit un peu peu je pensais que ça t'aurait plu, et même moi, donc forcément, quand on dessine, on incarne un peu ces personnages, et je crois qu'elle me a fait un peu de peine, en fait, parce qu'il lui mène une baffe, quoi.
Oui. Et pourtant, dans la deuxième partie, on peut pas dire qu'elle a le beau rôle.
Non,
parce que,
mais c'est ça, c'est
parce qu'à partir du moment où ils vont se séparer, Vanda va lui mener une vie absolument impossible à Léopold. D'ailleurs, je trouve que son visage change. D'ailleurs, Anne Simon.
Oui, elle est peut-être plus dure et elle vieillit aussi. Donc, il fallait que je... Là, encore une fois, au niveau du dessin, il faut montrer qu'il y a du temps qui passe aussi. Donc, je pense que je lui ai un peu changé le visage, en effet. Et puis, oui, voilà, après, c'est des astuces aussi où, quand on veut faire paraître quelqu'un d'un peu méchant ou d'intéressé, ou voilà, ça se joue parfois quelques petits traits.
Voilà, parce que Léopold, il va beaucoup souffrir à cause de Vanda, qui va même écrire un livre pour dire sa vérité et pour la crier finalement à la face du monde. Elle va lui présenter la facture dans tous les sens du terme. D'ailleurs, l'album est joliment sous-titré de la divine punition à la punition divine.
Voilà, c'est ça.
Non, c'est un bon résumé.
Oui, exactement. Il aura payé effectivement. Il aura payé cher.
Qui se laisse fouetter mérite d'être fouetté. C'est dans le livre.
Exactement, c'est la morale de la Vénus à la fourrure.
Ça correspond réellement à ce qui s'est passé pour Léopold, Catherine Sauva.
Oui, il a vraiment...
Il méritait de souffrir, d'avoir ce retour de bâton, si j'ose dire.
Écoutez, là, on rentre dans
c'est votre interprétation à vous, mais c'est aussi la façon justement dont vous avez traité le personnage de Léopold, dont je trouve, alors peut-être que... Voilà, je trouve qu'on est vraiment en empathie avec lui, en particulier dans la deuxième partie de l'album, même si Vanda est peut-être pas la méchante absolue, comme le disait Anne Simon. On est quand même tenté de lui dire, mais pauvre type, quoi, tu méritais quand même pas tout ça.
Non, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on a cherché avec Anne, et effectivement, on voulait pas que tout le poids pèse sur une personne ou tout le poids pèse sur l'autre, etc. Parce qu'on sait très bien que dans les relations humaines, il y a toujours tout un tas de choses qu'on ne voit pas. Donc, on voulait essayer de prendre cette réalité comme ça dans son entourage le plus composite possible. Mais c'est sûr que de tout d'un coup, et c'est là où on en arrive à ce que vous allez peut-être annoncer, donc je veux pas aller trop vite, la découverte de son nom repris comme un symptôme, c'est ça qui a tout bouleversé dans sa vie. Mais avant ça, il a dû traverser les affres d'un divorce difficile, de dettes que Vanda a commis en son nom, etc. Et ça a été une longue traversée pour quelqu'un qui aurait dû continuer à fonctionner comme un écrivain respecté, etc.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Anne Simon et Catherine Sauva qui publie donc chez Dargaud L'homme à la fourrure ou la biographie en bande dessinée de Léopold von Sacher-Masoch, un personnage qui a donné son nom à ce qu'on appelle justement aujourd'hui le masochisme, et vous le disiez à l'instant, hein, Catherine Sauva, il l'a donné à son corps défendant, hein, il s'en serait quand même rudement bien passé.
Ah oui, ça c'est sûr, parce que bon, c'est pas la première fois que... Bon, par exemple, si on prend juste le sadisme, le nom a été donné par rapport au Marquis de Sade, qui était évidemment mort depuis bien longtemps. Et en ce qui concerne Sacher-Masoch, quand c'est arrivé, il a encore vécu pendant 5 ans. Et là, c'était pas une souffrance choisie, évidemment, c'était tout d'un coup quelqu'un qui n'était plus qu'épinglé comme symptôme, et dont toute la vie antérieure devenait tout d'un coup était rayé, enfin, finalement, pour n'être plus qu'une perversion. Enfin,
par le choix d'un psychiatre, voilà. Le docteur von Krafft-Ebing. Mm-hmm. Pour quelle raison, justement, il a choisi de mettre Sacher-Masoch comme ça en lumière, quoi, d'une certaine façon. On a un peu l'impression qu'il avait envie de se faire un nom aussi dans le milieu, justement, de la psychiatrie.
Ça correspond à une période, là, on est fin 19e, on commence, il était ce psychiatre travaillait aussi auprès des tribunaux, donc son rôle était de décider de temps en temps, d'amener des diagnostics pour des gens qui commettaient un certain nombre de méfaits et qui parfois étaient liés à des vraies perversions, pour le coup. Et on est à une période où on commence les classifications, les rangements, les étiquettes, etc. Et donc, il a vu beaucoup de patients, il a reçu des lettres, il a eu des confrères qui lui ont adressé des cas, et il a rencontré un patient berlinois qui lui a dit avoir été très influencé par la lecture de la Vénus à la fourrure, et c'est comme ça que, très directement, il a décidé de donner le nom de masochisme aux gens atteints de cette, ce qu'il appelle, lui, une pathologie.
Enfin. Voilà, et l'un des grands mérites de l'album, c'est de rappeler que Léopold, c'était pas seulement l'auteur de la Vénus à la fourrure, mais qu'il a une œuvre qui, effectivement, est bien plus large. C'est un gros travailleur, quoi. Il écrit beaucoup, et il accorde énormément d'importance à son statut aussi d'écrivain.
Ah oui, c'était absolument primordial pour lui. On peut rajouter aussi tout un tas de choses sur lui. C'était quelqu'un qui avait... Il a créé des revues qui avaient une portée internationale dans lesquelles il publiait des textes d'écrivains de toute l'Europe. Il s'intéressait à vraiment beaucoup de choses. C'était un intellectuel, en fait, au sens qu'on entend aujourd'hui.
Il a écrit des romans, des pièces de théâtre, des nouvelles aussi.
Absolument. Mais il avait aussi, la raison pour laquelle il y a tellement d'œuvres aussi, c'est qu'il était feuilletoniste, comme on dit à l'allemande, c'est-à-dire qu'il écrivait beaucoup pour les journaux. Donc ça compose une œuvre effectivement énorme, quoi, composite. Ouais.
C'est aussi un écrivain francophone, donc il a rencontré Dumas d'ailleurs, par exemple.
Oui, absolument.
Alexandre Dumas.
Il parlait très très bien le français, puisqu'il avait eu une gouvernante qui s'appelait, pour l'anecdote, Mademoiselle Martinet.
Voilà, ça c'est vrai, parce que là vous finissez pas possible.
Non, on l'a pas inventé.
Elle s'appelait vraiment Mademoiselle Martinet. Très bien.
C'est ce qu'il a raconté.
Petit clin d'œil du destin, oui.
Voilà, c'est ça. Donc il s'était un peu prédestiné, on va dire. Et non, il parlait le français, il était francophile, et les Français l'ont beaucoup aimé à l'époque, parce que pour son 50e anniversaire, il a reçu un certain nombre de lettres de gens, de grands écrivains français, et il a aussi reçu la Légion d'honneur, ce qui était quand même le signe, dans tous les cas, d'un grand respect pour son œuvre.
Mon amour.
C'est juste une fille un peu perverse qui me plante des couteaux dans les fesses et qui me coince dans les souris noirs en sautant sa lame de rasoir. C'est juste une fille un peu fridée qui s'amuse avec ma santé et qui me dégoupille les gonades juste au moment où je prends mon fade. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Plus fort. Ah, ah, ah. C'est juste une fille un peu rocky qui grimpe à moto sur mon lit et qui sort sa chaîne de vélo en me disant je t'aime saignant salaud. C'est juste une fille un peu brutale qui déchire mes chemises, mes futales en me disant fais gaffe babacou, je mets mes crampons car t'es bidoule. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape. Moi encore. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Plus fort. Ah, ah, ah.
Cette émission est une rediffusion.
C'est juste une fille comme toi et moi. Enfin, je crois plutôt comme toi. Une fille qui s'amuse dans la vie et qui n'a pas honte quand elle rit.
Hubert-Félix Thiéphaine, en 1980, sur RFI, la chanson s'appelle Groupie 89 Turbo 6. Alors, il y a une scène, Anne Simon, qui arrive dans la dernière partie de l'album, après le récit de tous les malheurs qui se sont abattus sur la tête de votre héros, ou votre anti-héros, on ne sait plus trop, finalement, Léopold von Sacher-Masoch. C'est la scène du miroir. Un grand miroir en pied, que vous avez dessiné, posé par terre, et en face du miroir, il y a Léopold. Et cette scène-là, c'est vraiment un instant de vérité. Vous pouvez nous raconter comment vous en avez eu l'idée?
Je ne sais. Alors, le miroir, ben justement, parce qu'en fait, il faut quand même expliquer qu'il se met devant un miroir où il décide en fait d'arrêter, en fait, de vraiment mettre tout son passé de côté et d'oublier tout ça. Et donc, encore une fois, il fallait jouer encore avec la réalité et la fiction de la Vénus. Donc là, j'ai décidé de le faire se regarder dans un miroir où, en fait, voilà, c'est Séverin, le personnage du livre, qui se reflète. Donc là, voilà, on comprend quand même qu'il y a un grand lien entre le personnage qu'il a inventé et lui. Et là, ben il décide de brûler en fait Séverin et de l'oublier, et tout en restant devant ce miroir, il se revoit après enfant, et c'est là qu'on va comprendre en fait que d'où vient toutes ces idées en fait.
Voilà, et ça c'est vraiment le moment de vérité, hein. La vérité se trouve effectivement de l'autre côté du miroir, hein, d'une certaine façon, et on découvre un autre personnage qu'on n'avait pas du tout évoqué dans tout le reste de l'album, Catherine Sauva, et qui est visiblement un personnage fondateur de ce que Léopold est devenu, c'est la tante Zénobie.
Voilà, là on entre dans la scène primitive, en tous les cas, dans ce qu'il a décrit lui-même comme lui étant arrivé quand il était enfant. C'était donc une tante qu'il admirait. Alors maintenant, dont on sait plus ou moins, dont on ne sait pas vraiment si c'est sa tante, etc. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup de mystères qui a plané sur sa vie, mais en tous les cas, lui, il a dit comme ça.
Mais est-ce qu'il en a joué justement de ce mystère?
Ah oui, oui.
Est-ce que il s'est construit aussi une forme de légende?
Ah oui, parce que il a les quelques petits bouts de mémoire qu'il a publiés ici et là. C'est jamais des grands livres, c'est toujours comme des espèces de petits textes. Oh, il s'accorde beaucoup de choses. À un moment donné, il dit qu'il a été un héros pendant la guerre, qu'il a gagné des médailles. En fait, on sait que c'est pas vrai. Enfin, donc la tante Zénobie, elle a peut-être existé. C'était peut-être pas sa tante, mais c'était. Enfin, en tous les cas, il a vécu une scène très certainement quand il était enfant où il admirait une femme âgé, qu'il regardait en s'étant caché, et à un moment donné, comme il a surpris une scène amoureuse entre cette tante et une tierce personne, sa tante s'en est rendu compte et l'a battu pour le punir effectivement de ce qui était considéré comme de ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et pour lui, ça c'est ce qu'il estime comme étant le démarrage de ce qui va devenir ensuite ses fantasmes.
Oui, parce qu'il y a effectivement deux points d'orgue finalement dans sa vie. Il y a effectivement cette affaire de la tante Zénobie, il y a la rencontre avec Vanda, et puis il y a un troisième point d'orgue, c'est quand il décide effectivement de tourner la page, de tout brûler, hein, comme le disait Anne Simon, et ça se matérialise aussi par sa relation avec une femme qui s'appelle Hulda, qui, pour le coup, je trouve que physiquement elle n'est pas si éloignée que ça de Vanda, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un hasard total, mais... Il y a un petit effet de mimétisme, peut-être, Anne Simon.
Oui, elle paraît plus douce, quand même.
Oui, elle paraît plus douce, surtout par rapport, effectivement, à la Vanda de la deuxième partie de l'album. Et c'est vrai que la relation qu'il y a entre eux est une relation qui n'a rien à voir avec la relation précédente.
Non, ça n'a rien à voir. Et quand on dit qu'il voulait oublier son passé, là, il le fait dans sa vie privée aussi, parce que là, c'est la vie du bon père de famille par excellence. Ils habitent une petite maison. Il a aucun jeu sexuel avec Hulda, enfin a priori, qui était sa secrétaire en fait au départ.
Et, à la revue qu'il dirigeait.
Oui, voilà. Et en fait, vraiment, il y a simplement une scène à un moment qui est suggéré, on ne sait pas trop s'il pense encore à ses anciens démons. On a l'impression qu'il rêve en fait de d'anciennes scènes de domination. Mais avec Hulda, non, c'est vraiment, ils ont trois enfants, ils s'occupent de ses filles, voilà, c'est vraiment, on a tout oublié, quoi.
Oui, voilà. Donc on a effectivement l'impression qu'il y a deux Vanda dans l'album. Est-ce qu'il y a aussi deux Léopold, Catherine Sauva?
Oui, très certainement, parce que il était pétri de contradictions, comme beaucoup, c'est-à-dire voyant passionné par son travail, passionné par son époque à laquelle il avait envie d'adhérer. Il s'est lancé aussi dans la ville allemande où il habitait. Il s'est lancé aussi beaucoup dans une sorte de. Il a voulu créer des écoles. Il a voulu créer une sorte d'alphabétisation, si vous voulez, des gens de l'époque, etc. Donc il était cette personne-là. Il a été une personne qui, à un moment donné, a vécu une fantaisie certaine. Et puis ensuite, il est devenu une personne qui a commencé à vieillir, qui s'est assagi, qui a eu envie de s'occuper de sa famille. Est-ce qu'on ne contient pas tous aussi une partie de mystère, une part d'ombre, etc. Et une fois de plus, tout ça aurait été absolument... ce serait passé assez normalement s'il n'y avait pas eu un psychiatre pour l'épingler comme symptôme. Voilà.
Merci beaucoup à toutes les deux, Anne Simon et Catherine Sauva. L'homme à la fourrure est paru chez Dargaud. Caroline Loeb, donc comme promis, comme Sagan. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François, bonjour Catherine Sauvet, bonjour Anne Simon.
Bonjour.
Alors, Comme Sagan, c'est le titre du premier album en 10 ans de Caroline Loeb, disque consacré à la fameuse écrivaine française qui fut d'abord une pièce, d'ailleurs Françoise par Sagan.
Et lorsque l'on évoque le nom de Sagan, on pense tout de suite à...
Bah Bonjour Tristesse, évidemment.
Et lorsque l'on dit Caroline Loeb, Jean-François...
Bah, c'est la Ouate, évidemment, oui,
forcément. Tube de 1987, non seulement en France, mais à l'international également, peut-être en Autriche et en Allemagne, mais sans aucun doute en Amérique du Sud, n'est-ce pas Caroline?
Oui, énorme succès en Argentine, les Argentins sont fous de cette chanson, mais bon, ça a été un énorme succès en Italie, en Espagne, en Allemagne, j'ai entendu plein d'histoires de gens qui étaient à l'étranger, en Chine, au Maroc, et voilà, c'est une chanson qui a vraiment fait le tour du monde, donc c'est absolument formidable.
Mais jamais traduite.
Si, j'ai fait une traduction avec un copain à moi qui s'appelle Serge Grimbert, on l'a traduit en anglais. Je suis assez fière de la traduction parce que ça donnait, ça s'appelait And So What, et je peux vous faire le refrain en anglais, c'était, je peux la chantonner même, In any position, she has a disposition, for pillows and be mellow, she just wants to be low, and so what. Donc ça sonnait bien.
She has a disposition.
And So What, version anglaise de C'est la What and Pillows, Caroline Loeb.
Alors Sagan avait aussi une attirance pour la musique anglo-saxonne, particulièrement la musique de Harlem, et vous lui avez demandé Alain ce qu'elle avait de si particulier cette musique aux yeux donc de Caroline Loeb.
La musique d'Harlem, c'est le blues. Faites référence au texte de Sagan, Bonjour New York, que j'ai fait mettre en musique par Jean-Louis Pierrot.
C'est magnifique.
C'est beau ce qu'il m'a fait. Hein, ouais. Je trouve que vraiment, on sent la vibration de la ville, on sent l'énergie, on sent le jazz. Sagan a adoré le jazz. Elle a fait des kilomètres pour aller écouter Billie Holiday dans un club, je ne sais plus où. Elle a écrit un très beau texte sur Billie Holiday. Et voilà, la musique était très très importante dans sa vie. Donc dans ce texte, Bonjour New York, évidemment, il est question de Harlem, du jazz, des musiciens qui jouent la musique de la solitude et du temps qui passe, des clarinettes qui déchaînent la frénésie. Je trouve que c'est un très beau texte sur New York et sur la musique, effectivement.
C'est à New York que s'amuseraient le plus les titans de l'Antiquité. Enjamber le Rockefeller Center, sauter à pieds joints comme les ponts par-dessus les deux fleuves, jouer au cube avec les fameux blocs, autant d'excellentes distractions. Ville si belle, éclatante au soleil, ville écrasant le ciel dans ses parois, noyant les fleuves sous ses ombres, ville toujours éveillée sous le trafic des voitures et surtout le piétinement gigantesque de la foule new-yorkaise. Nulle image n'y correspond.
Bonjour New York, Caroline Loeb sur un texte de Françoise Sagan.
Avant Sagan, c'est Georges Sand qui a eu les honneurs d'un spectacle toujours signé Caroline Loeb. Sagan, le Sand, ne serait-ce que les écrivains en S qui intéressent Caroline?
Ça, c'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est des femmes qui s'inventent une vie qui n'existait pas avant elles, c'est des femmes qui cassent les codes, c'est des femmes libres, c'est des femmes pour lesquelles l'écriture est centrale, j'ai envie de dire comme pour moi. Et ça recoupe beaucoup, beaucoup d'autres choses, l'ambivalence du genre. Puis enfin, on peut résumer tout ça, une grande liberté.
Et ce disque concept, comme Sagan, devait au départ s'intituler « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve ».
Titre du morceau qui ouvre cet album, mais un peu long, et pourtant une formule qu'apprécie particulièrement Caroline Loeb.
Oh bah c'est une phrase géniale, c'est une phrase à tiroir. On a eu l'idée avec Pierre Grier d'en faire une chanson. Ça dit plein de choses, ça dit que tout peut arriver, que les choses qui n'ont pas été réglées ressurgissent, qu'en même temps, ça peut être un amour perdu de vue, que tout à coup qu'on retrouve. Moi j'adore les histoires de gens qui retrouvent un amour de quand ils avaient 14, 15 ans ou 20 ans, 40 ans plus tard. Il y en a plein des histoires comme ça, je trouve ça merveilleux. Ça raconte aussi que ça peut être... voilà, je le dis, on l'a écrit d'une manière un petit peu subtile dans la chanson, et là je vais le dire d'une manière un peu moins subtile, mais ça peut être aussi le retour du fascisme, les choses mal réglées, les conflits mal réglés. On a vu ce qui s'est passé entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Bon, enfin, après, voilà, c'est un long débat. Le passé réserve des surprises, bien sûr, surtout s'il est mal... s'il est mal compris, s'il est mal vécu, s'il est mal digéré. Je pense que la seule façon de vraiment d'avancer, c'est effectivement de bien faire les coins du passé. Mais c'est du boulot.
On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Une vérité, un parfum qui remonte, une honte peut-être familiale. familière, une odeur dans l'air.
Merci Alain. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI. Et vous m'en direz des nouvelles.
Nous réserve un amour perdu de vue et qu'on retrouve à un coin de